Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Let's protect what nature has on show, you know.
Bonjour. L'échec de la conférence sur le climat, la COP27, qui n'a pas réussi à proposer de nouveaux engagements pour faire baisser les gaz à effet de serre et passer par là, face à l'inertie, les militants écologistes se radicalisent. Opération soupe ou purée sur des œuvres d'art dans les musées, blocage du trafic en se collant au macadam ou même recours en justice contre l'inaction des États, la désobéissance civile embrasse de multiples voix. En Allemagne, l'association Letzte Generation fait parler d'elle par tous les moyens. Salomé et Noncoin les a suivis quelques jours dans leurs actions.
Il est 8h ce matin-là. Nous sommes à l'un des plus gros carrefours de Berlin. En temps normal, bus, tram, voiture, camion et vélo se croisent ici. Mais pas aujourd'hui. Le feu passe au rouge. Une soixantaine d'activistes s'engagent sur la route, mais au lieu de la traverser, ils s'assoient, par terre. Gilet orange sur le dos, bonnet enfoncé sur la tête, un tube de superglue dans la main. Ils sont là pour rester, comme Lina. Elle est activiste au sein du mouvement de protestation Letzte Generation.
Je me suis assise ici, au croisement de Frankfurter Tor, à 30 cm d'un camion qui ne veut pas arrêter son moteur. Nous voyons que cette protestation polarise, mais elle est absolument nécessaire car nous nous dirigeons vers un enfer climatique. Nous avons besoin d'un changement social et structurel, et c'est ce que nous essayons de provoquer avec cette manifestation.
À peine un quart d'heure qu'ils sont là, par terre, une main collée au goudron. La circulation est totalement bouchée. Seules ambulances, tram et vélo peuvent passer. Une chorale s'est installée au milieu du carrefour. Malgré cela, la tension monte.
Vous provoquez des embouteillages. À cause de vous, les personnes qui ont des entretiens d'embauche n'obtiennent pas de poste. À cause de vous, les personnes qui arrivent en retard au travail sont licenciées.
Cette soignante se rendait auprès de ses patients. Elle est maintenant bloquée.
C'est juste que ça m'énerve là tout de suite parce que mes seniors sont à la maison, ils doivent être soignés, ils doivent prendre leurs médicaments, c'est vraiment difficile.
Depuis des semaines, Letzte Generation organise presque chaque jour à Berlin ce genre de blocage. Leurs revendications sont simples, le retour du ticket de transport unique à 9 euros et la limitation à 100 km/h sur l'autoroute. Pour Lucas, membre historique du mouvement qui a grandi en France, ces revendications peu ambitieuses révèlent l'hypocrisie du gouvernement allemand.
Nous savons que ce sont seulement des premiers pas, mais que le gouvernement ne soit même pas prêt à faire ses premiers pas, qui font une différence. Alors que justement ils sont portés par une majorité dans la population. Ça pourrait être une première étape pour aller plus loin. Ça nous montre que notre gouvernement ne prend pas cette crise au sérieux.
Difficile de dire combien de membres sont actifs comme Lucas au sein du mouvement. Depuis sa création l'année dernière, les recrutements sont permanents. Plusieurs fois par semaine, à Berlin, mais aussi dans d'autres grandes villes d'Allemagne, l'association organise des échanges avec les curieux. Ce soir-là, une soixantaine de personnes sont venues écouter Lisa dans un café alternatif.
La crise climatique signifie que tôt ou tard, l'humanité entière sera anéantie. 3,5 milliards de personnes vivront dans des conditions climatiques que nous connaissons aujourd'hui dans des régions comme le Sahara.
Entre curiosité et véritable envie de participer aux actions de désobéissance civile, les motivations des participants sont très variées, comme nous l'expliquent Renate et Tobias.
Certaines méthodes, comme par exemple abîmer des œuvres d'art qui ont 100 ans, ça ne me convainc pas. Mais c'est une bonne chose que l'on s'engage.
On n'est pas toujours obligé d'être d'accord avec les idées, mais c'est important de s'y confronter et de comprendre leurs motivations.
Et pour les plus convaincus, la formation continue. Dans les locaux de Letzte Generation, à Kreuzberg, un quartier très vivant de l'ancien Berlin-Ouest, Lisa et Lina organisent un entraînement. Le but ? Savoir réagir face aux automobilistes en colère et aux policiers. Un jeu de rôle pour apprendre à rester calme et serein.
Ici, nous nous entraînons clairement à traiter avec la police, sans violence. Et nous apprenons aussi à réagir lorsque les gens sont agressifs et viennent vers nous.
Nous retrouvons Lina lors de l'action à Berlin. Elle et d'autres activistes sont arrêtés par la police. Assise par terre, après avoir été traînée sur le trottoir par un policier, Lina ne cache pas sa déception.
Je ne comprends pas comment on agit contre nous alors que nous faisons de la résistance civile pacifique qui est tellement nécessaire en ce moment et que l'État emprisonne et criminalise des gens de chez nous.
Ces actions sont amenées à se poursuivre en Allemagne et dans toute l'Europe alors que 14 de leurs membres ont passé plusieurs semaines en détention à Munich pour un blocage de route. Ils en sont sortis fin novembre.
Et en Italie, dès l'été dernier, la branche italienne du mouvement Extinction Rebellion s'invitait dans les musées pour faire parler d'elle sans toucher aux œuvres. Mais ce mois-ci, les écologistes italiens sont passés à la vitesse supérieure. Deux œuvres d'art exposées à Rome et à Milan ont été visées. De quoi pousser le nouveau gouvernement italien à serrer la vis pour protéger le patrimoine contre un activisme qualifié de vandalisme, les précisions à Rome de Blandine Hugonnet.
Sur une vidéo diffusée par le mouvement Ultima Generazione, Dernière Génération, dans un musée de Milan, des militants passent sous un cordon de sécurité et vident 8 kilos de farine sur une voiture de course, une BMW revisitée par Andy Warhol, une œuvre à 10 millions d'euros qui n'était pas protégée. Il a fallu attendre des experts de la marque allemande pour la nettoyer, a déploré le responsable de l'exposition. Moins de deux semaines plus tôt, dans la capitale, c'est le Summer au soleil couchant de Van Gogh qui a reçu un jet de soupe. Le tableau, derrière une vitre, n'a pas été endommagé. On s'y attendait, affirme l'administratrice, qui avait même durci les conditions d'entrée. Grosse besace interdite et petits sacs fouillés. C'est la goutte de trop pour le nouveau ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, qui condamne un outrage insupportable. Résultat, la décision est radicale. Il faut que toute œuvre soit recouverte d'un verre et tout musée mieux contrôlé. Ça va coûter cher et tant pis pour les visiteurs, mais il n'y a pas d'autre option que d'augmenter le prix du billet, prévient-il. Sauf que l'Italie concentre le plus gros patrimoine artistique au monde. Vitrer tous les tableaux du pays, c'est impossible. Il y en a des millions, répond Vittorio Sgarbi. L'historien de l'art et numéro 2 du ministère de la Culture se moque. Alors que faire? Entrer nu dans les musées pour éviter le vandalisme? Et les détecteurs de métaux ne servent à rien contre des bocaux de soupe, renchérit la responsable de l'exposition Van Gogh prise pour cible à Rome, qui juge le geste des défenseurs du climat inutile, mais veut rassurer, tant que l'intention reste de médiatiser et non d'endommager, comme les activistes l'ont promis, il n'est pas nécessaire de renforcer la sécurité des musées italiens.
Et cette nouvelle vague de protestation a touché tous les grands musées, de la National Gallery à Londres, au musée du Prado à Madrid, à Oslo en Norvège. Le tableau Le Cri d'Edvard Munch est un emblème déjà très protégé. Il a été volé et il est désormais présenté sous une vitre, si bien que les trois militantes qui voulaient coller leurs mains à son cadre le 11 novembre dernier ont été arrêtées avant même d'avoir pu commencer quoi que ce soit. Le Cri, un tableau dont le choix n'est pas anodin. À Stockholm, la correspondance régionale de Carlotta Morteo.
Je crie quand les politiques ignorent la science, je crie quand les gens meurent, ont scandé les militantes de Stop Oilletting, Stop à l'exploration pétrolière, au moment de leur arrestation par les gardiens de la salle Munch. Si l'opération n'a pas tourné comme prévu, l'affaire a été très médiatisée et les activistes longuement interviewés dans les jours qui ont suivi. Originaires de Finlande et d'Autriche, les deux militantes âgées de 24 ans, l'une doctorante en biologie, l'autre étudiante en physique, ont expliqué que le choix du tableau n'était pas seulement dû à sa valeur artistique, c'est le tableau norvégien le plus connu au monde, ni même financière, une autre version a été vendue à 90 millions d'euros, mais bien pour sa portée symbolique. D'abord, le tableau évoque l'angoisse, le genre d'émotion, explique l'une d'elles, que nous devrions tous ressentir face au changement climatique. Et puis, si le titre du tableau est « Le cri », ce n'est pas « A priori, le personnage, visage déformé, bouche grande ouverte qui hurle, non, lui se bouche les oreilles avec ses deux mains pour estomper un cri qui l'assourdit, le cri de la nature. C'est Munch lui-même qui l'évoque dans ses écrits. Alors qu'il se promenait un jour à l'heure du coucher de soleil, il a eu une espèce d'hallucination. Il y avait du sang et des langues de feu au-dessus du fjord. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et déchirait la nature. » Fin de citation. L'organisation Stop à l'exploration pétrolière a voulu attirer l'attention sur le fait que l'entreprise norvégienne Equinor prévoit de forer toujours plus de pétrole. Sa production devrait s'accroître de 15% en 2023.
Le gaspillage alimentaire, responsable de 10% du gaz à effet de serre. En France, chaque année, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture. Du côté des agriculteurs, cela commence par des légumes et des fruits trop gros ou trop petits ou tordus, bref, qui ne rentrent pas dans les normes établies par les enseignes du secteur et qui sont donc jetés. Dans le nord de la France, une start-up rachète ses fruits et légumes bio pour les revendre moins cher. Reportage à Heudicourt de Lise Verbeck.
L'exploitation d'Olivier Alluin se trouve au cœur du village d'Heudicourt. Il cultive sur 85 hectares de la ferme familiale des carottes, des pommes de terre, des courges, 100% bio, en tout une quinzaine de légumes différents.
Donc là on a un chou romanesco. Normalement, on est plutôt sur du 11-13 cm. Donc là, il dépasse un petit peu. D'aspect, il est sain, consommable et même très joli, mais il est un peu trop gros. Pareil pour celui-là.
Ouais. Ces choux ne correspondent pas au calibre demandé par les enseignes. Ils font partie de ce que l'on appelle les écarts de tri.
C'est des légumes qui sortent un petit peu du standard, des normes sur le marché de l'expédition et du frais. Et du coup, donc, ça peut être des choses qui ont un calibre ou une taille un peu spécifique, ou alors des choses qui ont des légers défauts visuels, mais sans impact sur la consommation.
Et ça représente combien pour les carottes, par exemple?
Sur la carotte, c'est un des légumes les plus impactés, hein, qui peut aller jusqu'à 30 ou 40% d'écart de tri potentiellement valorisables.
Sur ces 30 ou 40% de carottes, certaines trouvent quelques débouchés industriels, mais le reste était jeté. Depuis 2 ans, elles sont désormais revendues à la start-up hors norme. Sven Ripoche est l'un des 3 fondateurs.
C'est un service qui propose de sauver des fruits, légumes et les produits d'épicerie du gaspillage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les producteurs, les fabricants, et qu'on va récupérer auprès de ces personnes-là tout ce qui est hors norme, justement. On va les sauver et les amener directement au consommateur final, qui lui va être intéressé à la fois par la partie qualité, puisque c'est des bons produits, des produits bio notamment, par la partie prix, parce qu'on les vend moins cher, et aussi évidemment par l'impact que ça peut avoir sur l'environnement. Le gaspillage alimentaire, qui est un très très gros sujet environnemental, c'est de l'ordre de 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a choisi de s'attaquer à ce gros morceau, et notamment à tout le gaspillage qui a lieu en amont des magasins. En fait, il y a 50% du gaspillage qu'on ne voit pas du tout, qui est au niveau des champs, qui est au niveau des usines, et c'est là qu'on a voulu agir.
Les légumes d'Olivier Alluin sont vendus 30% moins cher à la start-up. Face à la flambée des coûts de l'énergie, cette source de revenus est appréciable pour l'agriculteur.
C'est un petit revenu complémentaire, mais c'est aussi une sécurité, parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait des lots complètement déclassés. Légumes, et ça permet quand même du coup d'en avoir une valorisation.
Une sécurité aussi pour cette année, car avec un automne très doux, les écarts de tri s'annoncent plus importants.
On a des productions qui sont arrivées à maturité beaucoup plus tôt. Comme il a fait plus chaud, les légumes sont arrivés plus tôt. Donc sur septembre-octobre, on a eu des légumes qu'on avait l'habitude au mois de novembre. Donc ça peut poser problème parce que ces légumes étaient destiné à de la conservation, à du frigo. Donc là, il y a une partie qui attend au champ, qui commence à grossir, qui vont peut-être générer un peu plus de pertes que d'habitude, qu'on ne peut pas encore mettre en frigo, parce qu'aujourd'hui, il fait encore plus de 15 degrés. Donc mettre un légume de 15 à 1 degré, c'est physiologiquement pas bon, et puis énergétiquement pas bon non plus. Donc on attend.
Pour faciliter les échanges entre la start-up et les producteurs, ici dans le Nord, c'est la coopérative agricole Norabio qui joue les intermédiaires.
Okay. On se tient au jus, attends, parce que j'ai la double peine.
Et ce jour-là, le téléphone du commercial Daniel Barbier n'arrête pas de sonner.
On rappelle dans un quart d'heure.
Ça n'arrête pas les commandes là.
Ouais. Donc là, on est clairement en direct. Donc cette semaine, on est donc en écart de tri sur de l'endive. Des endives qui sont clairement en sous-calibre. Et là, j'ai l'approvisionnement hors norme qui m'appelle. Et aujourd'hui, j'aurais besoin d'un dépannage aujourd'hui. Enfin, départ aujourd'hui pour livraison demain, impératif. Donc voilà. Donc là, il faut savoir être réactif, clairement. Et voilà.
Le commercial reçoit de plus en plus de demandes de producteurs pour vendre leurs écarts de tri à hors norme. Pour réduire encore plus ce gaspillage, il faudrait, selon lui, éduquer le consommateur. Pour l'agriculteur, c'est plutôt de la faute des intermédiaires. Le cahier des charges de la grande distribution est trop restrictif, selon lui. Face au changement climatique, aux sécheresses par exemple, qui ont un impact entre autres sur l'aspect visuel des légumes et des fruits, les écarts de tri pourraient devenir de plus en plus importants. D'où la croissance aussi de la start-up qui lutte contre ce gaspillage. Elle a multiplié par 4 son chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans et elle travaille avec 300 producteurs dans toute la France. Ces paniers sont vendus en Île-de-France, mais aussi désormais dans 3 grandes villes, Lyon, Marseille et Lille.
music.
Et c'est l'heure de la chronique musique de Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous nous parlez du grand retour de Björk.
Un album de Björk, c'est toujours un événement, tant l'autrice, compositrice islandaise nous a habitués à une exigence et une inventivité sans beaucoup d'équivalent depuis 30 ans. Et les débuts de sa carrière solo, c'est son 11e album qui vient de paraître, Fossora, une fascinante collection de chansons marquée notamment par l'emploi d'un sextet de clarinette basse associé à de puissantes rythmiques électroniques. Et Fossora, en latin, ça signifie « celle qui creuse », un indice sur la nature de ses compositions profondément enracinées dans la terre et les paysages islandais, mais aussi tournées vers les ancêtres et la famille de la chanteuse.
Et c'est sur le dernier album de Björk que se termine Accent d'Europe, réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Podcastez-nous sur notre site et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Très bon week-end.